Chapitre 15. La bataille d'Akinjia. Salut Sarkhan, que la terre te reconnaisse ainsi que ton fils Tagor et ton clan, Maat Angor. Je suis Shankin, du clan Asat Enor. Sarkhan, à genoux devant une table basse où il dînait avec tous les chefs des clans, dans une pièce reculée de la caserne de Philiden, fit signe à son visiteur de les rejoindre. Prends place, Shankin. Aishan, le chef de ton clan, est ici. Il partage mon repas. Nous t'attendions. Le jeune guerrier Tuatan vint s'asseoir de l'autre côté de la table basse. Torse nu, il portait déjà sur le corps les peintures de combat, et cela n'avait pas échappé à Sarkhan. Je vous apporte, ô guerrier, la mauvaise nouvelle que vous devinez. Une armée d'humains arrive du sud, et à sa tête, le comte Mérian de Mort. Sarkhan et les autres chefs ne manifestèrent aucune émotion. Sans doute attendaient-ils cette nouvelle. Ils savaient tous que la terre que les druides et la galaxie leur avaient cédée appartenait à la Terre Brune, et ils n'ignoraient pas que le comte n'était pas d'accord avec cette décision du haut roi. Ce n'était qu'une question de temps, mais le combat était inévitable. Eriu se fera dans le sang, cousin. Nous n'aurons notre terre qu'au prix de nombreuses morts. Shankin, combien d'hommes Mériand mène-t-il? Plusieurs milliers. Efrin, le guetteur de mon clan, affirme même qu'ils ne sont pas loin de 15 000. Mon fils, lui, juge qu'ils sont 12 000. Je pense qu'ils sont sans doute entre ces deux chiffres. Les guetteurs rapportent qu'ils sont lourdement armés et qu'ils marchent vers Philiden. Sarkhan hocha la tête lentement. Il s'attendait bien sûr à cette attaque, mais il ne l'avait pas imaginée si rapide. Quelques jours à peine avaient passé depuis qu'un messager de Galassie lui avait porté le sceau des Hogan. Mérian n'avait donc pas traîné. Ce comte devait être fort attaché à sa terre. Mais il allait devoir comprendre que cette dernière avait jadis appartenu aux Tuatan et que ceux-ci venaient récupérer ce que les hommes leur devaient. « Ce comte a été plus rapide que je ne le pensais », avoua Sarkhan aux autres chefs de clan. « Soit il est très attaché à cette terre, soit il est en conflit violent avec le haut roi et il refuse d'ignorer cet affront. Le haut roi et Hogan et son frère, intervint un chef de clan. Je sais cela, répondit Sarkhan, mais ici les frères apprennent à se haïr. En tout cas, quelle que soit la raison de sa rapidité, elle nous oblige à agir dès maintenant. Nous ne pouvons attendre que cette armée d'humains arrive à Philiden. Nous devons les arrêter avant la ville. Nous devrions envoyer des guetteurs vers le nord, suggéra un autre chef. Je voudrais être sûr que Mérian nous attaque seul. Il s'agit peut-être d'une diversion pour nous prendre à revers par le nord. L'Arcour est peut-être à nos portes. Une diversion de 15 000 hommes? Rétorqua Sarkhan. Non, Mérian donne tout ce qu'il a. Il agit par pure rage, j'en suis convaincu. Comme toi, cousin, je pense que l'Arcour a l'intention de s'allier à la Terre Brune. Mais je ne pense pas qu'ils aient déjà eu le temps de le faire, et encore moins celui de préparer une attaque surprise de cette envergure. J'espère que tu ne te trompes pas. Si nous partons vers le sud pour arrêter Mérian, Philiden sera bien plus vulnérable, et nous laissons nos enfants ici. Sarkhan soupira en acquiesçant. Le risque est grand, en effet. Peut-être pourrions-nous laisser deux clans entiers à Philiden pour défendre la ville. Serons-nous assez alors pour arrêter l'armée de Mériand? Sarkhan se mordit les lèvres. Il n'avait pas assez d'éléments pour établir une stratégie solide. Le temps manquait. Je ne connais pas la valeur de cette armée de Terre Brune, mais si les soldats de Mériand sont comme ceux que nous avons vaincus ici et dans tout le nord du comté, alors 5 clans suffiront pour arrêter 15 000 de ces hommes. Il y aura de nombreuses pertes. Nous bâtissons le temple des Tuatan. Nous construisons Eriu, cousin. Ici, nos frères meurent. C'est le prix à payer, mais c'est aussi ce qui fait la valeur de ce monde. Les chefs de clan manifestèrent leur accord, les uns après les autres. Ils étaient des guerriers, et la bataille ne leur faisait pas peur. Quels clans resteront à Philiden? Demanda l'un d'eux. Le tien? « Non, » répondit Sarkhan. Les Mahatangors seront au combat, comme moi. Mes frères sont les meilleurs guerriers de tous les clans, oui ?
La terre les reconnaît comme tels, affirma un chef de clan, et les autres acquiescèrent.
Nous laisserons les femmes en décider, décréta Sarkhan. Elles se concerteront ce soir et nous diront demain qui devra rester auprès d'elles.
Cela est juste.
Ainsi, tout le monde doit être prêt. Ceux qui restent comme ceux qui partent, tous connaîtront l'émotion de la préparation au combat.
Cela est juste, répétèrent les chefs de clan.
Sarkhan se leva, étendant les bras vers ses hôtes, les invita à l'imiter.
Retournez dans vos clans, cousins. Expliquez aux guerriers que nous partirons demain pour arrêter Mériande avant la forêt de Ténian. Que la terre nous épargne!
Les six hommes le saluèrent et se retirèrent en silence. Sarkhan les regarda partir, puis il se retourna vers la porte qui se trouvait sur le mur, derrière lui.
Tagor, tu étais derrière cette porte. Tu as écouté notre conversation, n'est-ce pas?
La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître le fils de Sarkhan. Le jeune homme ne portait pas les vêtements de la tribu. Il était habillé comme un habitant de terre brune. Seule la crête de ses cheveux rappelait qu'il était un Touatan. Et ses yeux, l'un bleu et l'autre noir, devaient aussi attirer l'attention.
« Oui, père, j'ai tout entendu. Mais les chefs de clan n'ont pas de secret pour les leurs, oui ?»« Tu aurais dû entrer, mon fils. Tu n'avais pas à te cacher. » Je ne voulais pas gêner le jeune Asaténor qui est venu. Je savais que vous m'aviez tous entendu. Alors j'ai écouté.
Sarkhan soupira. Son fils n'avait déjà plus les manières d'un Touatan. Et pourtant c'était un guerrier redoutable, un élément essentiel dans le clan.
Cette bataille-là est inévitable, mon fils. Il ne s'agit plus de conquête, mais de défendre Philidène.
Je sais. Défendre Philidène contre ceux à qui nous l'avons dérobée.
Comme eux-mêmes l'ont dérobée à nos ancêtres. Nous en avons déjà parlé, Tagor. Cette conversation ne finira-t-elle donc jamais?
Quand votre guerre aura cessé, mon père.
Voudrais-tu que nous laissions Mériande expulser nos femmes et nos enfants? Voudrais-tu que nous partions de nouveau pour chercher plus loin un asile, enfin?
Non. J'aurais voulu que nous trouvions notre place ici sans la guerre. C'est nous qui avons mené la première bataille. Et maintenant, cela ne s'arrêtera plus.
Non, Tagor. La première bataille a été menée il y a plus de 400 ans, contre nos ancêtres.
Le jeune homme hocha la tête, mais son regard disait toujours son désaccord.
Seras-tu des nôtres, mon fils ?
Bien sûr, Sarkhan. Il avait dit le nom de son père pour signifier que c'était au chef de clan qu'il s'adressait à présent. « Je serai des vôtres demain, et je combattrai jusqu'à la mort, s'il le faut. Je suis un Mahatangor avant tout. Je remplirai mon devoir, et j'espère que tout cela aura une fin heureuse, parce que je ne veux pas qu'un jour mes enfants aient à venger mon sort à leur tour. Personne ne devrait avoir à payer de sa vie pour venger ses ancêtres. »
Il ne dit pas un mot de plus. Et quitta la pièce d'un pas vif. C'était la première fois qu'il avait le dernier mot dans ces longs débats qu'il opposait à son père, et Sarkhan enragea. Mais il n'eut pas le temps de manifester sa colère contre son fils, car un homme du clan frappa à la porte l'instant d'après. C'était Jia, un guerrier que Sarkhan estimait. Il essaya de ne pas lui montrer son emportement.
« Que veux-tu, Jia ?»
Le Touatan le salua et entra dans la pièce.
« Nous venons de recevoir un message du clan Adenantor. »
Sarkhan fronça les sourcils. Il n'attendait aucun message de leur part.
« Ils ont été attaqués au sud de Gordraka par une garnison des soldats de la flamme. »«
Une simple garnison ?» s'étonna Sarkhan.
« Oui, et l'un des quatre manites a été dérobé. L'épée de Nuadu. »
Sarkhan poussa un cri de rage. Il ne parvenait pas à y croire. Les manites étaient destinés aux druides. Un clan tout entier avait été chargé de leur protection. C'était une catastrophe. Et cela signifiait peut-être que l'Harcourt avançait effectivement déjà vers le sud. Le chef de clan qui avait suggéré la chose pouvait-il avoir raison? Comment expliquer aux druides cette perte? C'était la première défaite des Touatan depuis leur sortie du Cid,
et c'était une défaite que Sarkhan n'avait même pas envisagée. Elle serait peut-être décisive. Car celui qui avait l'épée de Nuadieu entre les mains, s'il savait s'en servir, possédait un pouvoir que Sarkhan lui-même ne pouvait imaginer. Faïs frappa à la porte du monastère. Derrière elle, Mjol Nehalea était encore captivée par l'architecture, à la fois simple et élégante, du long bâtiment. Avant de se présenter à l'entrée, ils avaient fait le tour, admirant les statues encastrées dans des alcôves sous le toit, les sculptures dans la pierre et les nombreuses fleurs qui bordaient le pied des murs. Il était encore tôt, et la lumière du jour était éclatante, donnant aux couleurs une saturation vive. Quand la porte s'ouvrit, Aléa sursauta et vint se placer près de Faïs, la mâchoire serrée. Elle espérait qu'on ne la recherchait pas ici, que son nom n'était pas encore synonyme de danger, pas encore mis à prix. Un vieux moine apparut dans l'embrasure de la porte. Il était chauve, petit, obèse, une barbe grise de quelques jours masquait à peine son double menton. Les yeux cernés, le regard humide, il n'avait guère la mine accueillante. Engoncé dans une soutane de laine épaisse, il transpirait et ses mains et sa tête étaient secouées de tremblements disgracieux. Il avait la peau blanche et abîmée et son odeur était un mélange de sueur, d'humidité et de mauvais vin. « Nous cherchons asile pour la nuit », expliqua Faïs comme le moine restait silencieux. « Nous sommes trois et nos chevaux auraient besoin de nouveaux fers. » Le moine soupira. Il les dévisagea longuement, le visage tremblotant, lança au nain un regard peu amène. Puis il se retourna et, sans prononcer une seule parole, leur fit signe de le suivre. Aléa se tourna vers Faïs en haussant les épaules, puis les trois compagnons se décidèrent à lui emboîter le pas. Mjol marmonnait dans sa barbe. Ils s'étaient tous trois attendus à un peu plus de chaleur, mais après tout, ce n'était pas une auberge. Ils marchèrent dans un long couloir qui semblait traverser le bâtiment dans toute sa largeur. Les murs de chaux blanche étaient irréguliers, penchaient par endroits, et tous les 6 ou 7 pas, ils étaient décorés d'un crucifix de bois planté à hauteur d'épaule. Ils passèrent devant de nombreuses portes de chêne, à droite comme à gauche, puis ils arrivèrent enfin au bout du couloir où le moine les attendait, les mains remontées dans les amples manches de sa soutane.
« Voici une chambre où vous pourrez dormir en paix », dit enfin le vieil homme en indiquant la dernière porte du couloir. « Nous dînons après la dernière prière du jour, si vous voulez vous joindre à nous. La salle à manger est la 5e porte à gauche, là-bas. Et si vous voulez participer aux prières, la chapelle est accessible par l'extérieur, de ce côté-ci du monastère. »
« Merci, » dit Faïs en croisant les mains derrière le dos. Le moine hocha la tête. Il regarda le nain en fronçant de nouveau les sourcils, puis il repartit dans l'autre sens, vers l'entrée du monastère. Après quelques pas, il se retourna et leva une main, index dressé.
« Ah oui, certains de nos frères ont fait vœu de silence. Merci de les respecter. »
Il fit une grimace étrange, baissa la main et reprit.
Et bienvenue.
Puis il s'en alla, pour de bon cette fois. Aléa pouffa, aussi discrètement qu'elle put.
Quel drôle de bonhomme, dit-elle à ses deux amis quand le moine eut disparu au bout du couloir.
Il a pas l'air d'aimer les nains, ce gros-là,
se plaignit Mjoln, un peu vexé. Faïs ouvrit la porte de la chambre, et ils entrèrent les uns derrière les autres dans cette petite pièce blanche. Il y avait 4 lits. Austère, certes, mais c'était toujours mieux que leur couverture posée à même le sol. Une fenêtre ouvrait sur le paysage coloré du plateau d'Harcourt. Une table et 4 chaises au milieu de la pièce divisaient l'espace en 2. Ils posèrent chacun leurs affaires sur un lit, et Mjoln se coucha, les mains croisées derrière la tête, en poussant un long soupir de satisfaction.
« Un vrai lit ! Ce n'est pourtant pas compliqué !»
Aléa lui adressa un large sourire. Elle était contente, elle aussi, de retrouver un peu de confort. Mais ce n'était pas pour cela qu'elle était venue. Et elle était impatiente. Les livres. Elle savait qu'ici, il y en aurait. Les monastères étaient emplis de livres. C'étaient les moines eux-mêmes qui les confectionnaient. Cela, elle l'avait entendu dire plusieurs fois. Et s'il y avait des livres, il y avait peut-être quelques réponses aux questions qu'elle se posait.
« Je vais aller visiter les lieux », annonça-t-elle sans attendre en partant vers la porte.
Bjoln se redressa sur les coudes. La barde tourna la tête et arrêta de déballer ses affaires.
« Tu veux pas qu'on t'accompagne ?»
demanda le nain d'un air inquiet.
« Non, non, ça ira », répondit-elle. Puis elle sortit prestement de leur petite chambre.
La jeune fille avança dans le couloir sans faire de bruit. Elle n'avait pas perdu ses habitudes de petite voleuse, et même si elle n'était pas là pour dérober quoi que ce soit, elle préférait rester discrète et observer. Elle essaya plusieurs portes avant d'en trouver une ouverte. Elle glissa la tête à l'intérieur et vit que c'était une autre chambre, identique à la leur et inoccupée. Elle referma la porte et continua sa progression dans le long couloir blanc. Elle arriva devant une porte plus large. Elle compta. C'était la cinquième, la salle à manger. Elle entrebâilla la porte, inspecta la grande pièce, mais il n'y avait là que des tables et des bancs, rien qui puisse vraiment l'intéresser. Elle se remit en route. La porte suivante, plus éloignée, était à double battant. Aléa hésita, vérifia qu'il n'y avait toujours personne dans le couloir et posa lentement la main sur la grande poignée de cuivre. La serrure n'était pas fermée. Elle poussa la lourde porte en chêne et sourit en voyant la pièce qu'elle fermait. C'était une grande salle sombre, aux murs couverts de bibliothèques emplies de livres. Elle ne s'était pas trompée. Plusieurs moines étaient penchés sur des pupitres de bois et avec minutie, recopiaient sur de grandes feuilles les pages de livres ouverts devant eux. On entendait le grattement des écritures sur la pulpe du papier, le tintement des petits gobelets de verre où les moines puisaient l'encre noire au bout de leurs longues plumes. La lumière entrait en oblique par des fenêtres surélevées. Des particules de poussière dansaient dans les rayons du soleil. Tout était de bois dans cette pièce. Les pupitres, les bibliothèques, le plafond, le plancher, les fauteuils des moines. Seul le cuir des reliures, vert, rouge ou marron, tranchait avec les couleurs sombres du mobilier. Aléa entra silencieusement, referma la porte derrière elle et se décala sur la droite pour s'adosser à une haute commode et continuer à regarder ce spectacle extraordinaire. Les moines étaient si concentrés sur leur travail qu'ils ne l'avaient pas entendu entrer. De là où elle était, elle ne pouvait voir précisément les lettres qui se formaient au bout de leurs plumes, et de toute façon, elle n'aurait su les lire. Mais elle vit que certains faisaient de longues lignes de petits caractères, pendant que d'autres dessinaient de grandes lettres compliquées et ornées de plusieurs couleurs. Elle resta un long moment, debout, dans l'ombre, à observer le mouvement gracieux des plumes au bout de leurs doigts, le geste délicat de leurs mains qui tournaient les pages, les allers et retours incessants entre le papier et l'encrier. Elle admirait leur patience. Elle enviait leur savoir. Et elle aurait aimé entendre les histoires qui devaient être gravées sur chacun de ses livres. Soudain, une cloche sonna juste au-dessus d'elle. Elle sursauta brusquement et fit tomber un livre posé sur la commode, derrière elle. Les moines levèrent les yeux vers elle. Aléa serra les dents. Son cœur battait à toute vitesse. Ils ressemblaient tous aux moines qui l'avaient accueilli. Certains plus ou moins jeunes, d'autres plus ou moins gros. S'ils étaient aussi aimables que lui, elle se dit qu'elle risquait de passer un mauvais moment. En essayant de garder un air naturel, elle se baissa pour ramasser le livre et le remit en place. Les moines continuaient de la regarder, mais aucun ne paraissait vraiment surpris. Aléa se détendit un peu. Peut-être avait-il l'habitude que les voyageurs viennent ainsi les observer. Ou peut-être avait-il l'esprit encore embué par tant de concentration? La sonnerie s'arrêta enfin. Aléa leva la tête et vit la cloche au-dessus de la porte. Les moines posèrent leurs plumes et se levèrent. La jeune fille écarquilla les yeux. Ils avançaient vers elle, mais elle n'osait bouger. Elle se plaqua contre la commode derrière elle et sentit le rouge qui montait à ses joues. Mais les moines passèrent devant elle sans même la regarder et sortirent de la pièce un par un. Le dernier s'arrêta sur le pas de la porte et tourna la tête vers Aléa. Son regard était moins étrange que celui du premier moine. Il était plus jeune et un peu mieux arrangé. « Nous allons prier, jeune fille. Il faudra revenir demain, si vous voulez de nouveau nous voir travailler. Aléa acquiesça sans rien dire. Elle était encore très mal à l'aise. Le livre que vous avez fait tomber, il n'aurait pas dû être là. Ce n'est pas de votre faute. L'un des frères l'aura mal rangé. Je vais le remettre à la bonne place, à moins que vous ne vouliez le lire. C'est un ouvrage remarquable sur la géographie de la Britia.
Je ne sais pas lire,
balbutia Aléa. Le moine parut surpris.
Ah,
pardon. Il resta immobile un instant, regarda Aléa dans les yeux, puis il lui sourit avant de sortir de la pièce. Aux premières lueurs de l'aube, Fingin remercia l'aubergiste et partit prendre le cheval qui l'attendait dans les écuries. Il sella l'animal, attacha son sac sur sa croupe et monta sur son dos d'un seul élan. Il le laissa avancer de quelques pas, puis il se retourna sur la selle, une main posée derrière lui, pour donner un dernier regard au palais de Saïmina qui se dessinait au-delà des flots, sur la presqu'île ensoleillée. Il se souvenait de la première fois qu'il avait vu la haute silhouette du palais des druides. Et aujourd'hui, il la quittait de son propre chef. Il faisait peut-être la plus grossière erreur de sa vie. Quelle serait la sentence du conseil? Serait-il banni comme Félim? Cette aléa en valait-elle vraiment la peine? Il n'avait cessé de se poser et se reposer ces questions depuis l'heure de son départ. Toute la nuit passée dans l'auberge, il s'était torturé sur le sujet. Mais il était temps de partir, à présent. Le moment n'était plus au doute et au remords. Il fallait avancer. Fingin éprouva en cet instant une profonde solitude. C'était comme s'il avait à faire un choix seul pour la première fois depuis qu'il avait décidé, enfant, de devenir druide. Cela nécessitait une confiance en soi qu'il peinait encore à assumer. Et pourtant, il n'avait plus le choix. Si Erwan avait eu le courage de partir, si Galiad, si Félim l'avait précédé, c'était sans doute qu'il prenait la bonne décision. En tout cas, essaya-t-il de se convaincre, il n'était pas vraiment seul. Bientôt, il retrouverait Erwan. Il se remit face au sud et appuya ses talons sur les flancs de son cheval. L'animal repartit aussitôt sur le chemin de terre claire. Le druide se força à ne plus regarder derrière lui et essaya de voir loin à l'horizon, au-delà des petites barrières de bois qui dessinaient un grand cercle autour des champs du village. À l'est, le bleu de la mer se perdait dans l'infini. À l'ouest, c'était forêt et bocage. À perte de vue, ces petits prés délimités par des levées de terre. Soudain, Fingin entendit des bruits de sabots derrière lui. Des chevaux approchaient. Il se retourna lentement sans arrêter son cheval et vit la carriole rouge et verte des deux cheminants, Caitlin et Mel. Pourquoi partaient-ils si tôt? Et n'avait-il pas dit qu'ils allaient vers le nord? Fingin, intrigué, tira sur les rênes de sa monture pour attendre les deux acteurs. Il voyait qu'ils le regardaient et comprit bientôt qu'ils étaient venus pour lui dire quelque chose. « Bonjour Mel, bonjour Caitlin. Déjà levé ?» Les cheminants ne prirent même pas la peine de répondre. Ils semblaient pressés de lui poser une question.
« Fingin, ton vrai nom ne serait-il pas William ?»
Le druide eut un geste d'étonnement. Il regarda les deux acteurs l'un après l'autre et se demanda quelle surprise il lui réservait encore. Cela faisait bien longtemps que l'on ne l'avait pas appelé ainsi. « William Kelleren, oui, c'est mon nom profane. Comment le savez-vous? Kiaran vous l'aurait dit? Mais quand ?» Mel et sa sœur se regardèrent l'un l'autre. On aurait dit qu'ils communiquaient par la pensée. Une étrange lueur brillait dans leurs yeux. Caitlin se tourna vers le druide.
« Non, Fingin, ce n'est pas Kiaran. Nous avons un message pour toi. »«
Un message pour moi ?» s'étonna Fingin.
« Mais depuis quand? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit hier ?»«
Nous n'étions pas sûrs que tu en étais le destinataire, » expliqua Caitlin. « Tu t'es présenté comme étant Fingin, et le message est adressé à William. »
« Et de qui est ce message ?» pressa le druide de plus en plus intrigué.
« Il nous a été confié par un barde. » Taelron. Il nous a demandé de te faire parvenir un message de la plus haute importance. Un message qui vient d'Aléa. »
Fingin écarquilla les yeux. Quelle était cette plaisanterie? Vous vous moquez de moi?
Pas du tout, druide. Les acteurs ne mentent que sur scène, pas dans la vie. Si Taelron nous a dit que ce message venait d'Aléa, alors c'est vrai. Taelron ne saurait mentir. De tous les bardes de l'île, il est sans doute celui...
J'ai entendu parler de lui, je sais qu'il est très estimé. Quel est ce message?
Aléa demande que tu ailles la rejoindre au plus vite, au mont Tombe.
C'est tout? Demanda Fingin, qui continuait à douter.
Oui, c'est tout.
Au mont Tombe? Que j'aille la rejoindre? Et Erwan, il est avec elle?
Nous ne savons rien d'autre, Fingin. Tout ce que Taelron nous a transmis, c'est ce message. Tu dois aller au mont Tombe.
À présent, le druide commençait à y croire. Il était encore étonné par la manière, mais il voyait clairement dans les yeux des deux acteurs qu'ils ne mentaient pas, et il savait que si Taelron était à l'origine du message, alors celui-ci était authentique. Il n'y avait plus de doute possible. Pourtant, c'était tellement incroyable. Et surtout, pourquoi? Pourquoi Aléa était-elle au mont Tombe, et pourquoi demandait-elle à Fingin de la rejoindre? Elle était le Samil d'Anak. Elle savait sûrement des choses que lui-même ne pouvait pas comprendre. Et elle devait aussi avoir des prémonitions, une certaine vision du futur. Peut-être savait-elle que Fingin allait quitter Saïmina. Peut-être devinait-elle que, comme Félim, il avait l'intention de l'aider. Mais avait-elle vraiment besoin de lui?
Mais ce n'est pas tout,
reprit Caitlin, interrompant le cours des pensées du druide. Fingin leva les yeux vers la jeune femme.
Mel et moi avons décidé de t'accompagner.
Le druide fronça les sourcils. Il se souvenait de ses pensées de la veille, quand dans le confort de l'auberge, il s'était interdit de demander aux deux acteurs de l'accompagner. C'est très généreux de votre part, mais je ne peux accepter. Je ne sais vraiment pas ce que la Moira me réserve, et je n'ai pas le droit de vous emmener vers un avenir aussi flou.
Caitlin sourit.
Ce que la Moira te réserve? Vous autres druides avez une bien étrange façon de parler de notre mère. Allons, ne sois pas trop fière, Fingin, et accepte humblement notre offre. Nous y avons réfléchi toute la nuit, ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous voulons vraiment t'accompagner. Fingin ne savait que répondre. Il était sûr qu'en tant que druide, il se devait de refuser, qu'accepter n'aurait pas été correct. Mais le frère et la sœur étaient si sympathiques, et surtout si intéressants. De plus, il devait bien admettre qu'il était hanté par le regard de Caitlin. Et même si ce caprice était pire que tout, il ne voulait pas s'éloigner d'elle, de ses yeux, de son sourire. « Soit, nous n'avons qu'à faire un petit bout de route ensemble, » proposa-t-il, « et nous verrons bien si c'est raisonnable. » Mel sourit. Fingin se demandait si l'acteur n'avait pas deviné le trouble que sa sœur provoquait dans l'esprit du druide. Peut-être cela se voyait-il.
Nous pourrions atteler ton cheval à notre carriole avec les nôtres, suggéra Mel. Et tu pourrais monter ici avec nous. Ainsi, nous irons plus vite et nous pourrons parler en chemin.
Fingin acquiesça. Le message d'Aléa était clair. Il devait aller au mont Tombe au plus vite. La route était longue jusqu'à la petite île. Aléa était peut-être en danger et Erwan avec elle. Il n'y avait plus de temps à perdre.
Vous êtes resté ici tout ce temps?
Aléa sursauta. Elle n'avait pas entendu le moine entrer derrière elle. Elle se promenait depuis le départ des copistes entre les rayons de la bibliothèque, s'arrêtant à chaque pas pour regarder les livres, passant ses doigts sur les dos de cuir. Après de longues hésitations, elle avait même osé prendre un gros ouvrage, une magnifique reliure rouge qui avait attiré son regard de loin. Elle l'avait levé, lentement, tiré vers elle en essayant de ne rien faire tomber. Son cœur battait toujours aussi fort. Elle avait lancé des regards autour d'elle pour vérifier que personne ne la voyait. C'était un livre lourd et épais. Elle l'avait porté vers la commode près de l'entrée et les yeux écarquillés avait tourné les pages une à une, se délectant à chaque lettrine dorée, devant chaque gravure protégée par une fine couche de papier transparent. Elle aurait tant aimé comprendre les mots, ne serait-ce que les légendes des gravures. C'étaient des scènes de combat, des visages anciens, des paysages. Était-ce les moines qui avaient dessiné cela?
Pourquoi les druides interdisaient-ils les livres? Celui-ci était si beau.
Puis elle l'avait refermé délicatement et l'avait replacé à l'endroit où elle l'avait trouvé, espérant ne pas se trahir en le mettant à la mauvaise place. Elle était tellement concentrée qu'elle n'avait pas entendu le petit grincement de la grande porte de bois.
« Je regarde vos livres, » balbutia-t-elle.
Le moine sourit.
« Il faudrait une vie entière pour lire tout ce qui est ici, n'est-ce pas ? »
dit-il en se dirigeant vers son pupitre.
« Vous essayez de tous les lire ?»
s'étonna Aléa.
« Oh non, je n'ai pas le temps. Je passe mes journées à copier des pages entières. Mon tombe ne cesse de m'envoyer des livres, toujours de nouveaux livres. Il y en a tant dans cette bibliothèque que j'aimerais pourtant connaître, mais je dois d'abord terminer mon travail, et il semble que jamais je ne pourrai le finir. »
Aléa était admirative. Elle n'avait pas bougé depuis l'entrée du moine et n'osait s'approcher de lui pour le voir reprendre son œuvre.
« Combien de temps faut-il pour apprendre à lire ?»
Le moine, qui était déjà plongé dans son livre, leva les yeux vers la jeune fille.
« Cela varie, selon l'élève, le professeur, la volonté de l'un et de l'autre. Moi, j'ai appris à lire tout seul, quand j'avais votre âge, alors évidemment, ça a pris beaucoup de temps. »
« On peut apprendre à lire tout seul ?» s'étonna Aléa.
Le moine reposa sa plume sur son pupitre. Aléa eut peur qu'il se soit impatienté. Mais il se leva lentement et partit vers le dernier rayon de la bibliothèque. La jeune fille le suivit des yeux, mais n'osa toujours pas avancer.
« Allons, venez par ici !»
l'appela le moine. Elle obéit aussitôt, courant presque. Le religieux tenait dans sa main un livre de petite taille, relié de cuir vert gravé.
« Ce petit livre est un recueil de Séla. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Des petites histoires, des récits courts. »«
Des histoires vraies ? Ou bien des légendes, comme celle des bardes ?»«
Des légendes, des histoires imaginaires, mais très belles. »« Elles sont courtes et assez simples. » C'est un ouvrage parfait pour apprendre à lire, surtout qu'il est assez petit pour le voyage. Tenez, je vous l'offre. »
Aléa n'en revenait pas. On disait tellement de mal des gens de l'Arcour en Galatie, et surtout des religieux, qu'elle ne s'était vraiment pas attendue au moindre témoignage de sympathie de la part d'un moine.
« Mais, vous êtes sûre ?»
Le religieux sourit de nouveau. Il était attendri par la jeune fille, et sans doute lui rappelait-elle sa propre adolescence, son propre apprentissage de la lecture.
« Je croyais que les filles n'avaient pas le droit de lire, » reprit Aléa.
« Ah bon ?» s'étonna le moine. « Vous croyez cela ? Mais qui est allé vous mettre une idée aussi folle dans la tête ? Tout le monde a le droit de lire, enfin. Plus que le droit même, le devoir. »
« Mais au Mont-Tombe ?»
Ah, je vois. Vous faites référence à l'université. Oui, c'est vrai. Les filles ne peuvent entrer à l'université. Mais vous n'avez pas besoin d'entrer à l'université pour apprendre à lire. Allons, suivez-moi. Regardez-moi travailler. Et chaque fois que je copierai une nouvelle lettre, je vous dirai son nom. C'est un bon début. Après, vous continuerez toute seule. Si vous avez vraiment envie, vous y arriverez. Et Dieu vous aidera.
Aléa acquiesça. « Dieu ?» se dit-elle. « Dieu, ou la Moïra, peut-être. » Elle suivit le moine, qui se rassit à son pupitre.
« Les autres ne reviennent pas ?»
s'enquit Aléa, en voyant les nombreuses chaises vides.
« Pas ce soir. J'ai pris un peu de retard, alors je viens ici en dehors des heures habituelles. Allons, asseyez-vous et regardez bien. »
Aléa fit mine de s'asseoir. Mais elle resta en vérité sur la pointe des pieds pour mieux voir ce qu'écrivait le moine. Avec une agilité remarquable, le religieux dessinait de la main droite de grandes lettres, s'arrêtant à chacune d'elles pour expliquer à la jeune fille le sens de ces signes. Aléa fut très vite perdue, il y en avait bien trop. Mais elle s'arma de patience et continua d'écouter longtemps les paroles du moine, tant elle était heureuse. Elle avait l'impression de se venger de son enfance, de donner une leçon à son propre passé. Elle adorait cette sensation qu'elle avait de se transformer elle-même chaque fois qu'elle apprenait quelque chose. La maîtrise du Saïman, avec l'aide indirecte de Félim, le maniement des armes avec Erwan, et maintenant la lecture. C'était comme se construire petit à petit, soi-même, une impression tellement gratifiante. Aléa ne vit pas le temps passer. Le soleil commençait à disparaître derrière les collines au dehors, mais elle était toujours là, assise près du moine, à l'écouter et le regarder avec attention.
« Voyez-vous, jeune fille, on peut tout raconter quand on sait écrire. Grâce aux mots, on peut offrir au monde entier des histoires très longues et on peut garder le souvenir des événements que l'on a connus.
« Vous avez dû lire beaucoup de livres. Vous connaissez beaucoup de légendes ?» demanda Aléa avec une nouvelle lueur au fond des yeux.
« J'ai surtout lu les livres religieux, la géographie et l'histoire de la Gaëlia. Mais je connais quelques légendes, oui.
Pourquoi » « Pourquoi ?» s'étonna le moine en arrêtant d'écrire. « Vous connaissez la légende qui parle des trois prophéties ?» Le moine fronça les sourcils d'un air pensif.
« Ça me dit quelque chose, oui. Attendez que je me souvienne. Je me demande si ce n'est pas dans l'encyclopédie d'Annalie, dans les passages décryptés en tout cas. »
Aléa eut un geste de surprise. Annalie, le livre qu'Hernan avait mentionné quand elle avait espionné le conseil, caché dans la mezzanine au-dessus de la chambre. Il avait parlé de cette encyclopédie quand Aileen, l'archidruide, avait dit que le Samil d'Anak ne pouvait être une fille. Cela, elle s'en souvenait parfaitement. Et elle se souvenait aussi de la gêne de Félim quand elle lui avait demandé des informations sur ce mystérieux ouvrage. Il n'avait pas voulu en parler. Il avait simplement dit qu'Annalie était un ancien Samil d'Anak qui avait écrit une encyclopédie dont certains passages étaient codés, mais que le conseil avait fini par interdire, comme tous les autres livres. Un ouvrage écrit de la main d'un Samil d'Anak. Aléa aurait aimé en savoir plus.
Vous avez vu l'encyclopédie d'Annalie ? Demanda Aléa en essayant de cacher son émotion.
Le moine sembla gêné. Il regardait Aléa en se pinçant les lèvres, comme s'il regrettait d'avoir mentionné l'ouvrage.
Vous en avez déjà entendu parler ? Rétorqua le moine. Vous ne savez pas lire, mais vous connaissez l'existence de cet ouvrage ?
Aléa serra les poings derrière son dos. Elle avait toujours le petit livre dans sa main droite. Et elle sentit une goutte de transpiration qui coulait sur le cuir, contre sa paume. Encore une fois, elle en avait trop dit. Elle sentait que le moine commençait à prendre peur. Peut-être était-il en train de deviner qui elle était. Elle se demanda ce qu'elle devait faire. Changer habilement le sujet de la conversation et lui faire oublier tout ça, ou bien jouer le tout pour le tout et essayer d'en apprendre autant que possible sur ce qui l'intéressait. Après tout, elle était là pour ça. Trouver la légende des trois prophéties. Et la réponse était peut-être devant elle. Elle ne devait pas laisser passer sa chance. Il fallait qu'elle fasse parler le moine, même si cela risquait de révéler son identité.
Oui, j'en ai entendu parler. Mon ami Bard m'en a parlé. Je voudrais connaître cette fameuse légende, alors je suis un peu curieuse, vous comprenez ? Où se trouve le livre d'Annalie ?
« Il doit encore être à la bibliothèque de l'université, » lâcha le moine. « Mais pourquoi cette légende vous intéresse-t-elle à ce point ?»
Aléa ne pouvait répondre. Elle répliqua aussitôt avec une question à son tour.
« Est-ce que c'est Annalie qui a inventé cette légende ?»
Le moine referma d'un seul coup le livre sur lequel il travaillait. Il n'avait plus du tout le même regard. Il était visiblement embarrassé.
« Il va bientôt être l'heure des prières. Je dois m'en aller. Et je dois fermer la bibliothèque. Vous devez sortir, vous aussi. »
Il se leva et n'ajouta pas un mot de plus. Aléa le suivit, gardant son petit livre serré derrière elle, et elle partit vers la chambre qu'on leur avait donnée sans se retourner. Elle entendit le moine qui refermait la grande porte de la bibliothèque derrière elle. En remontant le couloir, elle sourit. Même si le moine avait soudain décidé d'arrêter de parler, après tout, elle en avait déjà appris bien plus qu'elle ne l'avait espéré. Et tout cela confirmait le pressentiment qui la hantait depuis qu'elle avait vu les Sylves à Brocélia. Les réponses qu'elle cherchait se trouvaient bien au Mont-Tombe.
La colline s'assombrit lentement alors qu'une vague grouillante avançait sur sa surface claire. Ils étaient plusieurs milliers, groupes informes, régiments désorganisés, houles monstrueuses qui montaient vers le nord dans un vacarme de fer et de grognements. C'était comme un essaim vert, rouge et noir qui flottait sur l'horizon, une coulée visqueuse qui remplissait lentement les reliefs du sol. Les boucliers se cognaient aux courtes épées, aux brassards de cuivre serrés sur la peau verdâtre, tendue par des muscles saillants. Les pieds, nus, à l'ossature disloquée, s'enfonçaient dans la boue noire des tertres. L'air était surchargé d'une sueur moite. Des milliers de visages inhumains, des milliers de hommes rouillés, de regards vides, cramoisis, de bouches haletantes masquant à peine les dentitions déboîtées d'où émanaient leurs haleines putrides. La horde des gorgounes suivait un seul homme, funeste silhouette dressée sur un haut cheval noir. Ils n'avaient plus vu le visage ou le corps de leur maître depuis le jour de son avènement. Maol Morda l'avait rappelé du monde des morts, l'avait drapé d'une lourde cape noire, l'avait nommé, et depuis ce jour, plus personne n'avait revu le squelette couvert de lambeaux de chair qui se cachait sous ce manteau majestueux. Dermot Kahl ne parlait pas. Il guidait les guerriers au combat, et nul n'aurait osé l'approcher. Les gorgounes étaient des créatures viles, sans scrupules et téméraires, mais si un druide ne leur faisait pas peur, ils n'étaient toutefois pas à leur aise face à ce mort-vivant. Leur nouveau maître les impressionnait peut-être autant que Maol Morda lui-même. On ne savait par quelle magie ce cadavre avait pu reprendre vie, mais chacun pouvait voir qu'il y avait les traces mêlées de l'Ahriman et du Saïman dans ce prodige. La démarche du mort-vivant avait, à l'évidence, quelque chose de surnaturel. Comme si chacun de ses gestes était porté par quelque énergie magique. Il n'y avait plus rien d'humain derrière cette cape. Mais ce qui inquiétait surtout les gorgounes, c'était de savoir qui était ce mort que Maol Morda avait ranimé. Il n'avait sûrement pas choisi un humain ordinaire. Était-ce le cadavre d'Aïn Sultor, prince des Érylim, le jeteur d'ombre? Ou bien celui d'Aldero, le druide vaincu dans l'enceinte même du palais de Shanka? À moins que cela ne fût Ilvin Ibouran, le Samil Danak dont le corps sans vie avait été ramené à Maol Morda par Sultor, qu'il avait retrouvé dans le cœur de la lande. À n'en pas douter, c'était l'un de ces trois hommes, car son charisme semblait naître d'un pouvoir magique qui lui était propre, quelque chose de plus que ce que lui avait donné le maître. Les 12 armées de Gorgon avançaient à pied tout le jour et une partie de la nuit, suivant le cheval élancé de Dermot Kahl. Sans se soucier d'être vus, car l'heure de l'Ensign était venue. L'heure où les fils maudits sortaient de l'ombre. L'heure de faire tomber le Samil Danak et le Conseil des druides. Bientôt, ils arriveraient à proximité d'un village. Et alors la Gaëlia tout entière saurait. Maol Morda allait renverser enfin le cours de la Moïra. L'ère des druides touchait à sa fin. Et que vienne l'obscurité. Au soir du troisième jour, ils arrivèrent au sud d'un petit village. Dermot Kahl avait dressé sa main droite au-dessus de sa tête pour faire signe aux chefs des 12 tribus, qui eux-mêmes firent signe aux troupes entières derrière eux. Les milliers de gorgounes arrêtèrent leur marche aussitôt, et sur la plaine, leur nombre dessinait une vaste ombre noire, comme celle d'un nuage immense que le vent aurait abandonné. Dermot Kahl descendit de son cheval. On le vit faire plusieurs allées et retours au-dessus du bassin où s'était enterré ce petit village de fermiers. Puis il fit volte-face et avança vers un chef de tribu. Le gorgoun ne parvint pas à voir le visage de son maître, tant il était enfoncé dans l'ombre de sa capuche noire. Mais il le devinait sans peine. Tous ici se souvenaient du squelette qui s'était levé devant eux.
« Vernar Kunte, au Gansterkabarg !»
ordonna le mort-vivant dans la langue des gorgounes. Le chef s'inclina, puis se retourna vers ses hommes pour transmettre l'ordre du maître. La colonne de guerriers fut parcourue d'un murmure de contentement et se mit en marche devant les 11 autres tribus immobiles. Dermot Kahl remonta sur son cheval. Il regardait l'armée de gorgounes qui passait à côté de lui, marchant vers la descente qui menait au village. Puis leur marche s'accéléra, devint course et ils se mirent à crier comme ils dévalaient la pente d'herbe verte, faisant tourner leurs armes au-dessus de leurs têtes, levant leurs boucliers. Les villageois eurent à peine le temps de les voir arriver. La meute sauvage et hurlante tomba sur le village comme une pluie d'hiver. Les fermiers qui sortaient de chez eux pour comprendre la raison de ce vacarme se faisaient aussitôt saisir par une lame, une pointe, une masse. Il n'y avait pas un seul combattant dans tout le village, et les Gorgounes ne rencontrèrent aucune résistance. Ce n'était pas une bataille, mais un jeu. Les monstres s'acharnaient sur les corps pétrifiés des paysans, de leurs femmes et de leurs enfants. Ils n'épargnaient personne, pas même les animaux, qui rejoignaient leur maître dans ce gigantesque bain de sang. Les crânes étaient écrasés à coups de massue, les bustes transpercés par les lames acérées, les membres tranchés sous le choc des haches. À main nue, certains gorgounes massacraient les femmes. Des corps passaient à travers les petits murs de bois dans un fracas étourdissant, d'autres tombaient par les fenêtres et s'écrasaient au milieu des ruelles dans des nuages de poussière, dans des gerbes de sang. Des pans entiers de maisons s'écroulaient, les granges prenaient feu. Le village se détruisait petit à petit. Quand le massacre fut bientôt fini, Dermot Kahl se mit en route et descendit vers le centre du village, suivi par les milliers de gorgounes qui s'éparpillèrent alentour, pillant les quelques rares pièces d'or du village, achevant les blessés, crachant sur les femmes violées, retournant meubles et matelas pour que rien ni personne ne leur échappe. Les gorgounes étaient heureux. Ce premier massacre avait la saveur d'une revanche, d'une longue vengeance, tant attendue, et qui ne faisait que commencer. Et c'était Dermot Kahl qui la leur offrait. Avec lui, ils savaient qu'ils iraient jusqu'au bout, cette fois. Que rien ne pourrait les arrêter, pas même le Samil d'Anak. Et bientôt, Saïmina tomberait, comme un château de sable.
Je suis venue voir Kiaran. Je sais qu'il est là. Mais ce n'est pas lui qui approche. Ce n'est pas un druide. Je me souviens de ce visage, ce torse nu, ses symboles de peinture bleue et ses yeux de couleurs différentes. La nuit et la mer, noir et bleu. Je me souviens, je l'ai rencontré ici, déjà. Il m'a parlé. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de temps ici et que ce monde lui appartenait, quelque chose comme ça. Et il m'a dit son nom. Tagor ?
Bonjour, Aléa.
Il connaît mon nom. Il le connaissait déjà la première fois que je l'ai vu. Comment connais-tu mon nom ? Comment sais-tu qui je suis ?
Tu es Aléa, je sais qui tu es. La terre sait qui tu es. Et elle me l'a soufflé.
Nous rêvons dans le ventre de la terre, Aléa, dans le Cid, chez moi. Non, non, Tagor, nous sommes dans le monde de Jar, pas dans le Cid.
Il regarde autour de lui. Ceci est le Cid, insiste-t-il.
Non, ceci est le monde de Jar. Ce n'est pas possible. Il est encore plus perdu que moi. Il ne sait pas ce qu'il fait ici.
Le monde de Jar? Alors je ne rêve pas du Cid?
Non, tu ne rêves pas. Pas vraiment. Tu es comme moi, un invité de Jar. Le Cid ressemble peut-être à cela, mais ce n'est pas le Cid. Je suis désolée, Tagor. Ton peuple a quitté le Cid. C'est tout ce que je sais de toi, d'ailleurs. Je ne sais rien d'autre à ton sujet, et toi, tu sembles déjà me connaître.
Je suis le fils de Sarkhan le Jeune, chef des tribus Tuatan. Et je suis ton frère.
Que veut-il dire ? Je n'ai pas de frère, et je ne suis pas Tuatan. Est-ce une image ? Un symbole ? Mon frère ? Que veux-tu dire par là ? Je ne suis pas fille de Sarkhan.
Non, c'est vrai, Aléa. Sarkhan n'est pas ton père. Mais nous avons la même mère, petite sœur. Et tu lui ressembles tellement.
Ces mots montent dans ma tête. Ils me frappent l'esprit. Je n'arrive pas à les croire. Il doit mentir. ou bien il ne sait pas de quoi il parle. Il est perdu, il croyait être dans le cid, il croyait rêver. Il dit n'importe quoi, je ne dois pas l'écouter.
Veux-tu dire que je ressemble à ta mère ?
À notre mère. Elle a disparu avec toi, Aléa, quand tu es née.
Tu te trompes, personne ne connaît ma mère.
Moi, je l'ai connue, puisque c'était aussi la mienne. Ton père n'était pas Touatan, petite sœur, alors ils l'ont rejetée. Et notre mère a dû quitter le cid. Je ne l'ai jamais revue.
Mon âme tout entière tremble. Il semble ne pas mentir. Mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas le croire. Je n'ai pas de mère, pas de père. Je suis orpheline. Personne ne sait. Personne. Tu te trompes, Tagore. Je ne suis pas la fille d'une Touatan, je suis la fille de la terre. Kaïliana.
Oui, fille de la terre. Fille du cid. C'est dans le cid que tu es née. Cela est vrai.
Mais c'est bien ma mère qui t'a portée dans son ventre. Je t'ai vue naître, Aléa. Et je t'ai vue partir. Partir pour toujours dans les bras de ma mère. Je sens une larme sur ma joue. On peut pleurer dans le monde de Jar. Je pleure parce que, maintenant, je sais qu'il dit vrai. Il est mon frère. Je le sais. Je le sens. Mon frère. Tagore, comment s'appelait-elle ?
Mora.
Où est-elle ? Est-elle encore de ce monde ? Pourquoi ne l'ai-je jamais vue ? Pourquoi m'aurait-elle abandonnée ? Il ne le sait sans doute pas. Me souviendrai-je encore de tout cela quand je quitterai Jar ? En arrivant, je n'avais rien, et maintenant j'ai un frère. Et l'image d'une mère. Est-ce possible ? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché ?
J'aurais préféré t'oublier, Aléa. Et quand je t'ai vue ici, je croyais que ce n'était qu'un rêve. Mais à présent, je sais que c'est toi. Ma petite sœur. La fille de ma mère. Mon sang. Je vois tes larmes. Vois-tu les miennes ?
Je vois tes larmes, mon frère. Je n'arrive pas à croire à mes propres paroles. J'ai un frère, et il est Touatan.
Oh, Aléa, je ne te quitterai plus. Je viendrai auprès de toi dès que je le pourrai, petite sœur. Je voudrais te voir, te toucher. Mais je dois d'abord m'occuper de mon père.
Sarkhan, c'est ton père qui mène ton peuple sur nos terres ?
Il dit que cette terre nous appartient. Qu'elle a été volée à nos ancêtres.
Et toi, que dis-tu ?
Moi, je crois que nos pères sont emplis de haine, mais aussi qu'ils ont le cœur juste. Leur haine n'est que la fille des massacres que leurs propres pères ont subis.
Cela ne finira jamais.
Pas si je parviens à les arrêter, Aléa. Et tu dois m'aider.
Pourquoi ?
Parce que tu es ma sœur.
Et comment pourrais-je t'aider ?
Je ne sais pas. D'abord, tu dois protéger les miens. Nous ne sommes plus nombreux, et même si nos pères sont des guerriers redoutables, ils finiront par périr au combat si personne ne les protège. Tu dois veiller sur eux.
Les protéger alors que tu dis qu'ils ont banni ma mère ? Qu'ils l'ont rejetée du cid quand je suis née ?
Alors toi aussi, ton cœur est empli de haine.
Cela ne fait plus aucun doute. Il est bien mon frère. Ses paroles auraient pu être les miennes. Et je sais ce qu'il veut dire. Je comprends ses émotions. Mais tout cela est tellement lourd à porter. Je ne sais pas si je pourrais tenir. Tellement de responsabilités. Tellement de découvertes, de vérités. Je vous aiderai, mon frère. Je ne sais pas comment, mais je vous aiderai. Reviens me voir souvent.
Il sourit.
Ses yeux sont magnifiques. Nous avons tellement de choses à nous dire. Je ne saurais par où commencer. C'est tellement nouveau, avoir un frère. Je n'aurais jamais cru.
Erwan, Galiad, Fingin, Kiaran. et maintenant Tagor. Je voudrais les réunir et pourtant je dois aller au Mont-Tombe. Ai-je le droit de faire passer cela avant eux? Comprennent-ils ce qui m'appelle là-bas? Et comment le pourraient-ils, puisque moi-même je ne suis pas sûre? Si peu de temps, si peu de temps. Je regarde le ciel. Il n'y a aucun nuage. Tout est bleu, tout est clair. Et pourtant moi je rêve de pluie. Je voudrais que l'eau du ciel tombe sur moi, qu'elle nous lave, qu'elle nous donne la vie, qu'elle embrasse d'un seul coup tous ceux que j'aime, où qu'ils soient sur cette île, qu'elle soit comme un lien qui nous unisse. Je voudrais simplement qu'il pleuve. Et il pleut. Il pleut comme jamais je n'ai vu pleuvoir. Et moi, je ris.
L'épée de Nuadu est aux mains de l'Arcour,
s'exclama Hernan en frappant le sol de son bâton en chêne. La chambre du conseil était plongée dans l'obscurité. La pluie n'avait cessé depuis la veille. On n'avait jamais vu pareille averse au milieu de l'été. De gros nuages noirs envahissaient le ciel et lâchaient sur toute l'île des torrents de pluie grasse. L'archidruide fulminait. Les mauvaises nouvelles continuaient de tomber sur le conseil les unes après les autres. Il était temps de passer à l'acte, de réagir. Il réalisait à présent qu'il n'avait fait que fuir, éviter les actions que sa place aurait dû lui imposer. Cela ne pouvait plus durer. S'il ne faisait rien, le conseil allait sombrer. Et beaucoup plus vite qu'il ne l'avait déjà craint. Félim était mort, comme Aod, Aldero et Aileen. Fingin était parti, Aléa était introuvable, les Tuatan étaient sur le point de se faire attaquer par la Terre Brune, l'Arcour venait de récupérer l'un des quatre manites les plus importants de Gaelia. L'ombre de Maol Morda s'étendait sur l'île. Et Hernan avait même commencé à entendre des rumeurs sur une scission au sein du Conseil. Certains frères semblaient être en tel désaccord avec lui qu'ils envisageaient, selon les rumeurs, de quitter Saïmina pour fonder un nouvel ordre druidique. Cela, il ne parvenait à y croire, mais il se disait que la rumeur, toutefois, n'était pas née par hasard. La crise ne cessait de s'amplifier. L'équilibre serait bientôt détruit. C'était la marque de l'Unseen, et l'ordre du monde de demain ne serait sûrement pas celui pour lequel le Conseil travaillait depuis plusieurs centaines d'années.
Je crois qu'il est temps pour nous de passer à l'acte. Nous devons agir afin d'assurer notre cohésion, montrer l'exemple de notre force pour asseoir notre autorité.
L'archidruide reprit sa respiration. Il posa son long bâton blanc sur ses genoux, se redressa sur son haut siège et déclara d'une voix solennelle:
nous allons attaquer l'Arcour.
Le conseil resta silencieux. Tous les yeux étaient levés vers l'archidruide. L'heure était grave, les événements se bousculaient, chacun pouvait ressentir sur ses épaules le poids de cette crise profonde. Et cette fois-ci, ils savaient tous qu'il ne suffirait pas de quelques petites manipulations politiques pour résoudre les troubles. Il faudrait une guerre. À côté de l'archidruide, posé sur une table basse dans un plateau doré, tout le conseil pouvait voir les trois manites que les Tuatan avaient amenées jusqu'ici. Ils étaient là, imposants, brillant dans l'obscurité opaque de la chambre, traversés par l'ombre des gouttes de pluie que la lune projetait dans la pièce. Signe d'espoir inattendu pour les druides, ils étaient aussi la preuve que le monde traversait une crise extraordinaire. Hernan les regarda un instant. Tous ici, comme lui, avaient peine à croire qu'ils étaient enfin là, à Saïmina. Le conseil avait recherché ces objets depuis tant d'années, mais il en manquait un.
Nos ennemis d'Arcour ne sauront se servir de l'épée de Nuadu,
intervint Odran en voyant l'inquiétude dans les yeux de l'archidruide.
Seul un druide peut utiliser les manites.
Certains dans l'assemblée acquiescèrent. Sans doute voulait-il se rassurer. Mais Hernan releva la tête et un doute profond se lisait sur son visage.
Ils ont peut-être un druide avec eux,
dit-il en serrant dans ses mains le bâton sur ses genoux.
Maol Morda,
s'étonna Odran.
Il est au palais de Shanka et je ne crois pas qu'il ait pu s'associer à l'Arcour.
Non, répliqua Kiaran qui était resté silencieux jusque-là. C'est Samael. Samael est avec eux.
Tous tournèrent la tête vers lui. Kiaran n'avait pas fini de les surprendre. Chacune de ses interventions était une révélation foudroyante. Depuis qu'il avait expliqué qu'il voyageait chaque soir dans le monde de Jar, la moitié de ses frères le prenait pour un fou, et l'autre moitié le craignait. Aucun n'osait lui parler. Personne ne voulait vraiment savoir. Et Kiaran avait chaque jour l'impression de s'éloigner de l'ordre, de devenir un étranger.
« Aviez-vous oublié le deuxième renégat ? Samael. Je me souviens pourtant bien de son visage. Il était assis là, dit Kiaran en désignant l'un des deux sièges vides à la droite de l'archidruide. Et aujourd'hui, il est avec l'Arcour. »
Un murmure de protestation parcourut le conseil. Tout le monde ici préférait s'imaginer que Samael était mort depuis longtemps. On avait espéré depuis sa disparition que jamais il ne reviendrait sur la scène politique de la Gaëlia. Mais Maol Morda n'était peut-être pas le seul à vouloir prendre sa revanche.
« Je ne sais pas sous quelle identité il se cache, » reprit Kiaran malgré le brouhaha. « Mais je suis sûr d'une chose, mes frères. Samael est dans le camp du comte Alroeg. Peut-être même se cache-t-il sous les traits du comte en personne. »
Hernan reprit la parole en haussant le ton de sa voix pour couvrir les chuchotements de l'assemblée.
« Si cela est vrai, cela confirme que nous devons attaquer l'Arcour au plus vite. »
Hernan pouvait sentir l'inquiétude qui envahissait le conseil.
« Nous avons 3 des 4 manites, » continua-t-il. « Nous sommes 11 grands druides et plusieurs dizaines de druides. Nous n'avons rien à craindre de l'armée d'Arcour, même si elle est aidée par Samael et le manite de Nuadu. Nous ne pouvons plus reculer à présent. L'heure du combat est venue. Nous devons réunir l'armée de Galassie, celle de Sar, de Bizagne et les Touatan, et nous écraserons l'Arcour. »
« Et Maol Morda, » intervint Tirnan. « Que faisons-nous de lui ? S'il profitait de cette guerre pour attaquer Saïmina en notre absence ?»
Hernan acquiesça.
« J'ai prévu cela. Nous ne partirons pas tous ensemble. Seulement 6 membres du conseil et la moitié des druides iront au combat. Et cela, le temps de la bataille, pas un jour plus tôt et pas un jour de plus non plus. »
L'archidruide se leva. Il demanda le silence.
« Mes frères, je ne laisserai ce conseil subir aucune pression. La grandeur de Saïmina ne doit pas souffrir des tensions de notre temps. S'il faut se battre pour garder le contrôle de la terre que nous aimons, s'il faut tuer pour s'assurer que la Gaëlia reste sur le chemin de la Moïra, alors qu'il en soit ainsi. Que le conseil déclare la guerre à la cour. Audran, je vous charge de la cohésion de cette action. Vous devrez assembler les armées de Galassie, de Sar et de Bizagne, et avec elles, 6 membres du conseil et les plus expérimentés des druides. Vous attaquerez l'Arcour jusqu'à ce que le comte Alroeg déclare son allégeance à Saïmina. Vous récupérerez alors l'épée de Nuadu et amènerez l'évêque à Aeditus devant cette chambre pour qu'il soit jugé. La secte des chrétiens sera interdite en Arcour, comme elle l'est sur tout le reste de l'île. « L'autorité de Saïmina doit être rétablie. Qu'il en soit ainsi. »«
Et les Touatan ?» demanda Audran.
« Ils sont déjà nos alliés. Leur don des manites est la preuve de leur sincérité. S'ils nous aident à battre l'Arcour, nous les aiderons à contenir la Terre Brune et reconnaîtront officiellement, avec le Haut-Roi, leur territoire, sous le nom d'Eriu, comme ils l'ont demandé. Je sais qu'ils nous rejoindront si nous attaquons l'Arcour. » Mais leur émissaire m'a informé qu'une bataille se préparait contre la Terre Brune. Ils ne pourront donc se joindre à nous assez vite, et nous ne sommes pas à même de les attendre. Mais ils devraient l'emporter. Les bardes nous rapportent que les hommes de Mériande sont plus de 10 000, mais les Touatan sont des guerriers redoutables. Ils ont leur chance.
L'archidruide marqua une pause.
Au pire, s'ils venaient à perdre... Cela simplifierait l'échiquier politique et les combats auront affaibli Terre Brune, de telle sorte que notre seul ennemi serait l'Arcour. De toute façon, ce n'est qu'une question de temps. Nous commencerons sans les Touatan. Shehan, Je veux que tout ceci soit inscrit au registre du conseil. »
L'archiviste acquiesça. Hernan inspira profondément. Il posa un regard circulaire sur l'assemblée. Ils l'avaient tous écouté avec attention, et pour la première fois, il avait eu l'impression de faire un choix véritablement décisif. Le sort de son ordre se jouait aujourd'hui. Il ne pouvait plus attendre. Au fond de lui, il espérait qu'il ne commettait pas la plus grande erreur de sa vie. Il n'ignorait pas que sa décision allait entraîner des milliers de morts. Mais il savait aussi que s'il n'agissait pas, les troubles dans tout le pays seraient peut-être bien pires encore. Il ne pouvait prédire l'avenir, mais il ne devait non plus en être la victime. Le conseil ne pouvait être passif. C'était contraire à son essence, à sa raison d'être. Et surtout, Hernan espérait secrètement que Larcourt abdiquerait avant qu'il n'y ait trop de morts. Le comte Alroeg, pensait-il, finirait par admettre qu'il ne pourrait jamais battre l'ensemble des druides, les armées de Galatie, de Sar et de Bizagne et les Touatanes réunis. La loi du plus fort devait l'emporter. Il le fallait. L'archidruide se renfonça lentement dans son large fauteuil. On n'entendait que le grattement de la plume de Shehan sur le registre du conseil, quand soudain, Kieran prit la parole. « Alors c'est la guerre !» Tout le monde se tut, et Hernan lui lança un regard furibond.
« Pour la première fois depuis longtemps, » s'exclama l'archidruide, « le conseil va vraiment servir à quelque chose sur cette île, remplir le rôle qui lui sied, rétablir l'ordre. S'il faut une guerre pour cela, s'il faut des morts, je suis prêt au nom du conseil à l'assumer. » Saïmina ne vous a pas seulement appris à négocier, à parlementer, elle vous a aussi enseigné à vous battre. Et il y a une raison pour cela. S'il y en a parmi vous qui refusent le combat, qu'ils se signalent tout de suite. »
Personne n'osa répondre. « Et Aléa ?» reprit cependant Kieran.
« Nous devions nous occuper d'elle. » « Je me charge d'Aléa. Kodran se charge de la cour, et moi je m'occuperai de la jeune fille. » Je la ramènerai ici. Et quand notre pouvoir aura de nouveau été confirmé par l'abdication de la Terre Brune et de la cour, nous aurons toute la liberté de nous occuper d'elle, et nous aurons l'épée de Nuadu. Vous savez combien elle est importante. »
Un frisson parcourut la chambre.
« Oui. Elle est l'une des rares armes qui puisse tuer le Samil Danak. »
reprit Kieran à la place de l'archidruide. Et dans sa voix, se lisait une détresse profonde. Galliad Aldaman, le tueur de dragons, bondit vers son arme. Il venait à peine de s'endormir près de son fils, et la pluie continuait de tomber sur eux comme une vague furieuse. Autant de pluie en cette saison? Comment était-ce possible? Mais le son qu'il venait d'entendre n'était pas celui de la pluie battant contre les rochers. C'était autre chose. Sans faire de bruit, dégoulinant de pluie, il sortit son épée de son fourreau. Bantral. La légende racontait qu'il l'avait retirée de la queue du dernier dragon après l'avoir tué. On disait aussi que c'était le dragon lui-même qui l'avait forgé. Maintenant que Félim était mort, elle était tout ce qu'il restait à Galliad de son passé de magistel. Tout ce qui faisait de lui un guerrier. Il ne savait pourquoi, mais elle donnait presque un sens à sa vie. Pour elle, il ne devait pas quitter son métier. Pour elle, il resterait magistel. Le magistel d'un fantôme. La saisissant des deux mains, il leva l'arme devant lui, la portant jusque devant son visage. Les gouttes qui coulaient sur la lame étincelaient devant ses yeux. Il avança lentement, essayant de contourner l'endroit d'où le bruit était venu. Le bas de la pente était parsemé de rochers, certains plus hauts que lui. Un homme pouvait très bien se cacher là, plusieurs même. Il devait se méfier. Il regretta presque de n'avoir pas réveillé Erwan. Son fils était un combattant valeureux, mais il était encore fatigué et il n'avait osé le sortir de son sommeil. Le magistel se déplaça sur le côté, dans la boue que la pluie remuait, ouvrant grand les yeux pour essayer de voir le moindre mouvement dans l'obscurité. Il entendit un nouveau bruit, plus à l'est cette fois. Il accéléra le pas sous la verse obstinée. Courbé en avant, les jambes fléchies, il était prêt à bondir. Il y eut un mouvement derrière un buisson d'amarante, une ombre furtive. Galliard prit son élan et sauta par-dessus le rocher qui le séparait de l'arbuste. Il retomba sur ses pieds et fit aussitôt quelques pas en arrière, sur la défensive. Soudain, il les vit. Quatre yeux jaunes qui brillaient dans la nuit à travers les gouttes de pluie. Il tendit son épée devant lui, allongeant ses muscles trempés. C'était de l'eau. Galliard inspira. Il devait faire attention. Les loups étaient des prédateurs, des attaquants rapides qui pouvaient lui bondir dessus à n'importe quel moment. Mais il ne leur laisserait pas cette chance. Le magistel n'avait pas vécu toutes ces années de danger pour finir sous les crocs d'un loup. Il se prépara à attaquer. Les loups ne bougeaient pas. Ils le dévisageaient tous les deux, babine retroussée. Galliard leva son épée par-dessus son épaule droite. Il attendit un instant, immobile. L'attaque devait être soudaine. C'était le seul moyen de surprendre ces animaux, et il allait devoir frapper les deux en une seule fois. Soudain, il entendit un craquement derrière lui.
« Attends !»
C'était Erwan qui s'approchait, les mains tendues devant lui.
« Attends, ne les attaque pas !»
Galliard fronça les sourcils. Il fit un pas en arrière, mais laissa son épée en garde. Sans quitter les animaux du regard, il s'adressa à son fils.
« Qu'est-ce que tu racontes ? »
cria-t-il pour couvrir le bruit de la pluie battante.
« Ne les attaque pas, je crois que ces deux loups ne nous veulent aucun mal. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
rétorqua Galliard, qui cette fois tourna la tête pour regarder son fils. Erwan continua d'avancer. Il passa à côté de son père et s'approcha des loups. L'un des deux, grand et gris, se mit à reculer en grognant. Mais le deuxième, à la fourrure blanche, ne bougea pas. Ses poils étaient collés par la pluie contre son corps mince.
« Tu es fou, Erwan! Il va te sauter dessus, pousse-toi de là !»« Attends! Je te dis que... j'ai vu ces loups. J'ai vu Aléa en rêve cette nuit. Elle m'a prévenu. »
Galliard avança vers son fils.
Si c'était un rêve, Erwan, cela ne suffit pas pour nous protéger de ces animaux. Fais attention. Elle m'a prévenu que ces deux loups viendraient ici. Je les ai vus dans ce rêve. C'est Aléa qui les envoie, j'en suis sûre. J'ai rêvé de cette louve.
Le jeune homme s'agenouilla lentement devant la louve blanche, s'enfonçant dans la boue épaisse. Il avait beau être sûr de reconnaître l'animal, il resta tout de même sur ses gardes. Après tout, cela n'avait peut-être été en effet qu'un simple rêve. Et pourtant... La louve se mit à gémir. Elle avança prudemment sa gueule vers la main que lui tendait le jeune homme. L'autre loup n'était pas loin. Il tournait en rond derrière elle, abrité sous un petit arbre. Mais il ne semblait pas agressif. Erwan approcha encore sa main, grande ouverte. La louve eut un petit geste de recul, puis elle avança de nouveau. Lentement, Erwan posa la paume de sa main sur le crâne de l'animal. Il commença à le caresser avec douceur, tout en gardant le buste en arrière. La louve se laissa tomber sur le flanc, puis roula sur le dos, les quatre jambes en l'air sous la verse estivale. Erwan répondit à l'invitation et lui caressa le ventre. La louve se mit à gesticuler sur le dos, comme un chien domestique. Le jeune homme lui donna des petites tapes amicales sur le flanc, puis se leva lentement. Galliard était bouche bée. Il n'avait jamais vu un loup se laisser ainsi caresser. Il avait d'abord cru que son fils avait perdu la raison, mais il était bien obligé d'admettre maintenant que la louve n'était pas agressive.
« Donnons-leur le reste des lapins que nous avons mangés ce soir, » proposa Erwan. « Nous devons nous montrer amicaux. »
« Et après ?» répondit Galliard. « Et si cette louve était simplement apprivoisée, comment pouvons-nous être sûrs que c'est Aléa qui l'a envoyée ?»«
Je ne sais pas. Nous verrons bien. Pour l'instant, contentons-nous de sympathiser.
Je crois que l'autre loup a besoin d'être rassuré. Il est plus timide que celle-ci.
Galliad haussa les épaules. Il n'aimait pas trop l'idée de rester auprès de ces deux prédateurs, mais si son fils disait vrai, il y avait peut-être un espoir de retrouver Aléa. Samael arriva trop tard sur le champ de bataille. Quand il vit la panique qui avait gagné les habitants du petit village d'Akinjia, il comprit qu'il ne pourrait plus empêcher le combat. Il monta sans se faire voir dans un colombier, à l'est du village, sur une petite colline isolée. De là, il pouvait voir toute la scène. S'il n'avait pu arrêter Mériand à temps, il espérait au moins que celui-ci pourrait remporter le combat contre les Toatanes. Après tout, une seule chose importait pour lui à présent. Il voulait récupérer les trois autres manites. La plaine d'Akinjia était située entre deux bras de la forêt de Ténian, au nord de la Terre Brune. C'était une grande étendue d'herbe, une colonne droite flanquée par des bois de chênes rouvres à l'est et à l'ouest. De chaque côté de cette large bande de terre se trouvaient les deux camps ennemis. Samael essaya d'estimer le nombre de combattants qui se trouvaient dans les deux armées opposées. Il ne pourrait sans doute avoir qu'une vague idée, mais cela lui suffisait. Seul Galliad Aldaman, le célèbre magistel de Félim, avait la réputation de pouvoir donner le nombre exact de ses ennemis d'un seul coup d'œil. Même le Saïman ne pouvait donner à Samael ce pouvoir-là. Mais cela n'avait guère d'importance. Une estimation suffisait à mesurer les chances respectives des deux camps. Au nord, il compta environ 4000 Toatanes, à pied et rangés sur deux lignes seulement. Ces barbares connaissaient l'art de la guerre. Samael avait déjà pu le constater quand il avait dérobé l'épée de Nuadu. Ils se comportaient et étaient vêtus comme des sauvages, certes, mais maîtrisaient l'art du combat mieux que les plus nobles soldats de l'île. Ils étaient organisés en tribus. On pouvait en distinguer cinq, aux couleurs de leur peinture de guerre, et dans chacune d'elles, les combattants étaient équitablement répartis entre l'arc et l'épée. Les chefs des clans étaient à l'avant de leurs troupes. Il y avait trois tribus sur la première ligne et deux sur la seconde. Et le clan principal, le plus nombreux, celui des Mahatangor, était au centre de la première ligne. Il serait le premier à se battre, derrière son chef, Sarkhan le Jeune, dont la réputation de guerrier avait déjà parcouru toute l'île. Sarkhan était debout, quelques mètres en avant de la première ligne. Il tenait dans chaque main une large épée, et immobile, il scrutait l'horizon, comme s'il défiait à lui seul ses milliers d'ennemis avant la bataille. Samael ne put s'empêcher de sourire. Cette témérité absurde l'amusait. Quelle folie pouvait habiter les hommes au point de leur donner ainsi l'amour de la guerre et leur enlever toute peur de mourir. Au sud, Samael estima qu'il y avait au moins 13 000 Brunois, une armée lourde, faite surtout de chevaliers, répartis sur quatre lignes. Quatre bataillons effilés se partageaient la première ligne. Il y en avait trois sur la deuxième et la troisième, et la dernière ligne n'était composée que d'un seul bataillon de fantassins, l'arrière-garde. Sur les surcots qui couvraient leurs armures de plate et sur les étendards, on distinguait sur fond rouge une créature étrange avec une tête de lion, le corps d'une chèvre et la queue d'un dragon. La chimère. Le blason de Mériand Mor-le-Bel, comte de Terre Brune. Mériand, contrairement à Sarkhan, se tenait en retrait. Entouré de ce qui devait être sa garde personnelle, il inspectait le champ de bataille pendant que des coursiers transportaient ses ordres vers les quatre capitaines des premières lignes. Mériand n'était pas un guerrier. Il ne se battait pas. Mais il était bon stratège et peut-être saurait-il trouver la victoire, pensa Samael. Les hommes de Terre Brune l'emportaient largement par le nombre, en tout cas, et pourtant, celui qu'on appelait l'évêque natalien vit que le contexte offrait une chance aux Toatanes. Avant tout, les deux bois de chaque côté du champ de bataille ne permettraient pas aux Brunois d'attaquer leurs ennemis par le flanc, de les encercler et de les submerger. Les Toatanes étaient certes moins nombreux, mais assez toutefois pour remplir toute la largeur du terrain, alors que les Brunois, eux, ne pourraient s'étendre pour profiter de leur surnombre. Ils devraient attaquer sur la même largeur de front, et quand les premières lignes arriveraient au combat, elles empêcheraient les suivantes de passer pour leur prêter main forte. Mais ce n'était pas tout. Les Toatanes étaient à pied,
et la qualité du sol importait peu pour eux. Les Brunois, en revanche, seraient fort gênés. Il avait plu pendant 2 jours, d'une pluie grasse et torrentielle, comme jamais, de mémoire d'homme, il n'avait plu à cette époque de l'année, comme si la Moïra en avait décidé ainsi. Le champ de bataille n'était qu'un vaste bassin de boue, et il n'y avait rien de pire pour une armée montée. Les chevaux de Terre Brune allaient s'empêtrer dans la fange, certains perdraient l'équilibre. Les chevaliers qui tomberaient ne pourraient pas se relever et deviendraient des proies faciles pour les fantassins du Cid. Ainsi, l'armée de Mérian de Mort était plus nombreuse, mais la plaine d'Akinjia serait ce jour-là plus favorable aux Touatan. La bataille serait donc plus équilibrée qu'il n'y paraissait, estima Samael. À moins qu'il n'intervienne. Mais cela était trop risqué. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était surveiller l'évolution des combats et n'intervenir que si la vie de Mérian de lui-même était en danger. Il ne pouvait se permettre de perdre le comte de Terre Brune. Il avait besoin de lui. Les Touatan avaient sans doute eu la même analyse concernant les avantages du terrain. Leur seul souci était donc de contraindre les Brunois à s'engager dans un combat de front, les obliger à s'enfoncer dans ce couloir de boue avant qu'ils ne comprennent que les deux forêts les emprisonnaient et les empêchaient de prendre avantage de leur supériorité numérique. Samael resta ainsi longuement devant ce spectacle immobile, imaginant l'angoisse qui devait peser sur les hommes des deux camps dans cette interminable attente. Et soudain, Sarkhan retourna à la tête de son clan. Alors les Touatan se mirent en marche. Le combat allait enfin s'engager. Les guerriers du Cid avancèrent sur le champ de bataille, espérant obliger les Brunois à s'engouffrer à leur tour. Les fantassins Touatan, le torse nu, les muscles couverts de peinture, les cheveux coiffés en crête, progressaient à côté des bataillons d'archers, lesquels adoptaient une formation en pointe afin de permettre un angle de tir le plus large possible pour un nombre maximum de flèches. Après quelques pas dans la boue épaisse, les archers Touatan s'arrêtèrent au milieu du terrain et plantèrent chacun devant eux une longue lance obliquée vers l'avant, formant ainsi un mur de pointe que les chevaux ne pourraient traverser. Les fantassins Touatan avancèrent encore de quelques foulées, puis ils s'arrêtèrent au cri de Sarkhan. Ils attendirent ainsi quelques instants, mais les Brunois n'avançaient toujours pas. Peut-être Mériand avait-il lui aussi compris l'avantage que le terrain offrait aux Touatan et cherchait-il un moyen de renverser la situation. Sarkhan ordonna aux archers de reprendre les lances qu'ils avaient plantées devant eux et d'avancer de nouveau vers l'ennemi. Les Touatan se redressèrent et se mirent au pas de course, criant quelques paroles que Samael ne pouvait comprendre, mais il distingua toutefois le mot « Eriu ». Les Touatan se battaient pour leur terre. Quand ils ne furent plus qu'à quelques foulées de cheval des lignes ennemies, les Touatan s'arrêtèrent de nouveau. Les archers plantèrent leurs lances devant eux, sous le regard médusé des Brunois. À cet instant, un coursier dévala de la colline où était perché Mériande. Sans doute apportait-il un ordre au capitaine du front, mais les premières flèches des Touatan arrivèrent longtemps avant lui. Ce fut une nuée stridente qui tomba sur la première ligne des Brunois. Il y avait quelques 2000 archers dans le camp des Touatan, et chacun décochait de nombreuses flèches, si bien qu'en très peu de temps, les chevaliers de Mériande furent assaillis par une pluie de plus de 10 000 pointes. Dans la panique, voyant les leurs tomber par centaines, les Brunois chargèrent, sans attendre l'ordre du comte. Sarkhan était parvenu à engager le combat comme il l'avait voulu. La première ligne brunoise s'engouffra sur le terrain de boue, bientôt suivie par la deuxième et la troisième. Sarkhan attendit encore avant de lancer ses hommes à la charge. Il voulait être sûr que les Brunois ne pourraient déborder sur les côtés, là où la forêt était moins dense. Il attendit jusqu'au dernier instant. Et quand la horde des chevaux ennemis ne fut plus qu'à quelques mètres, il lâcha enfin son cri de guerre et tous les combattants Touatan se mirent à courir avec lui à l'assaut des Brunois. La première vague des chevaliers s'abattit avec violence. Les chevaux arrivèrent à grande vitesse et dans l'élan écrasèrent les premiers fantassins du Cid. Les hommes de Mériande s'enfoncèrent sans peine à travers la première rangée de Touatan, ouvrant leur voie à grands coups de hache, de lance ou d'épée. Mais petit à petit, à mesure que les chevaux étaient freinés par le combat, comme ils commençaient à piétiner sur place, à se tasser les uns derrière les autres, le terrain se transforma en un gigantesque bol visqueux dans lequel les animaux peinaient à avancer.
Ils arrivèrent bientôt à hauteur des lances plantées dans le sol par les archers, et certains s'empalèrent sans pouvoir se dégager. Les tireurs de la première ligne de Tuatan avaient reculé après leur salve meurtrière. Ils prirent de nouveau position et envoyèrent une seconde volée de flèches. Comme les Brunois étaient pour la plupart à cheval et les Tuatan au sol, il leur était facile de s'assurer qu'ils atteignaient l'ennemi. Il suffisait de viser en hauteur. Les chevaliers de Mériande étaient des cibles aisées et ils furent de nouveau saisis par cette volée assassine. Voyant que l'avant-garde se faisait décimer, la deuxième ligne de cavaliers chargea à son tour, mais ce que Samael avait prévu se réalisa. Ils furent arrêtés dans leur course par le chaos de la première ligne. Les Brunois étaient tellement serrés les uns contre les autres qu'ils n'avaient plus la liberté de mouvement nécessaire pour se servir de leurs armes. Les corps sans vie amoncelés sur le sol, les chevaux trébuchants, pris de folie, les murs de lances brisés à hauteur d'épaule. Le combat s'agençait de telle sorte que les hommes de Mériande parvenaient à peine à se battre, seulement à mourir. Les Tuatan, eux, avaient en revanche toute la place nécessaire pour travailler au couteau, enfonçant leurs lames aiguisées dans la fente des haumes, les jointures des armures, crevant les yeux ici, perçant les cœurs là. Torse nu, plus léger, ils étaient aussi plus habiles, et la boue ne les dérangeait pas. Ils volaient de victime en victime, transformant peu à peu l'armée de Mériande en tapis de cadavres. Le combat avait commencé depuis longtemps, quand les archers Tuatan cessèrent leurs tirs, abandonnèrent leurs arcs, prirent à leur ceinture épées ou marteaux de guerre et se mêlèrent à la deuxième ligne de Tuatan qui passait maintenant à l'assaut. Le massacre reprit de plus belle. Le sang coulait dans la fange. Têtes coupées, membres tranchés se mélangeaient au parterre grouillant d'hommes et de chevaux blessés. Les plaintes terribles des mourants couvraient à peine le bruit visqueux des lames qui s'enfonçaient dans les entrailles, les gargouillis poisseux des viscères qui se répandaient au sol, le craquement des os brisés. Le terrain tout entier n'était plus que bruit, odeur et couleur du massacre. Malgré la distance, Samael arrivait sans peine à lire l'expression sur tous les visages. Les Tuatan étaient habités par une fureur de vaincre. Une folie meurtrière qui leur brûlait les yeux, animait leurs bras comme ceux de marionnettes aveugles et durcissait leurs coups, alors que les Brunois commençaient à perdre confiance, submergés par la peur. La bataille continua ainsi pendant de longues heures. Des heures de démence sanglante, où l'horreur avait atteint un tel paroxysme que les Tuatan eux-mêmes commençaient à se laisser envahir par une nausée morbide. Il y avait tellement de sang. Tellement de chair déchirée que certains vomirent devant ce spectacle insupportable. Mais alors que la plupart des Tuatan arrêtaient enfin de se battre, estimant peut-être qu'il y avait eu assez de morts d'un côté comme de l'autre, le clan Maatangor continuait d'avancer derrière Sarkhan. Le corps du chef des clans était couvert de sang, on ne voyait même plus ses peintures de guerre, mais on n'avait aucune peine à le reconnaître. Aucun autre guerrier ne continuait à frapper aussi fort. Aucun autre ne continuait à crier le nom d'Eriu en achevant les Brunois allongés sur le sol. Les Maatangor étaient les guerriers les mieux entraînés de tout le peuple Tuatan et ils étaient aussi les plus obstinés. Ils n'avaient d'autre fonction dans la communauté que la guerre et ils ne s'arrêteraient pas tant que tous les Brunois ne seraient pas morts ou partis. C'était leur unique logique. Et ainsi continuait l'hécatombe. Des rangées entières de chevaliers étaient décimées, remplacées alors par les lignes derrière elles, réduisant chaque fois un peu plus le nombre des soldats de Mériande. L'acharnement des Maatangor était tel que bientôt ils eurent tué tant d'ennemis qu'ils furent plus nombreux qu'eux. C'est alors que commença la débâcle. Les uns après les autres, les Brunois abandonnèrent leurs armes. Certains ôtèrent leurs armures pour s'enfuir par la forêt. D'autres plongèrent sous les cadavres de leurs frères, en espérant échapper à l'attention des guerriers du Cid. Les capitaines eux-mêmes commençaient à faire demi-tour, abandonnant leurs chevaux et leurs hommes aux coups mortels des haches ennemies. Les survivants prenaient la fuite. Les blessés attendaient en geignant qu'on vienne les achever. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Samael, contemplant le carnage sous ses yeux, comprit que la bataille était définitivement perdue.
La réputation des Tuatan, quant à elle, venait encore de remporter une terrible victoire.